Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
De nombreux auditeurs vont être ravis. Franck Ferrand a invité Serge Legas cet après-midi pour nous parler de Pablo Picasso. Bonjour Franck.
Bonjour Ombline, bonjour à tous. Vous connaissez Serge Legas désormais et vous croyez connaître Picasso. Je dis bien croyez connaître car en vérité, l'un et l'autre pourraient bien nous surprendre. Pour nous mettre en jambe, je vous propose de vous raconter les débuts du grand artiste, histoire de rappeler à tout le monde qu'avant de faire exploser les formes, Picasso les avait intégralement maîtrisées.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Nicolas sur l'origine des ambassades.
Ah ben voilà une question passionnante. Pour le moment, c'est le grand ambassadeur de l'art et de sa permanente révolution qui nous attend.
Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Comment devient-on Picasso? Voilà la question que je me suis posée pour préparer cette émission. Comment devient-on d'abord cet immense peintre, bien sûr, mais qui était aussi, ne l'oublions jamais, sculpteur et céramiste, et quel céramiste, et décorateur, et même d'une certaine manière écrivain. Picasso est mort il y a 42 ans, c'était le 8 avril 1973, il avait 91 ans lorsqu'il s'est éteint dans sa propriété de Mougins, dans le sud de la France. Il laissait derrière lui plus de 60 000 œuvres. Et dites-vous que nous parlions à l'instant avec Wendy Bouchard de la réouverture du musée Picasso, mais il existe en Europe 7 musées qui portent le nom de Picasso. Alors donc celui bien sûr de l'Hôtel Salé à Paris, mais aussi à Antibes, à Valoris et pour cause, à Barcelone, 2 musées à Malaga, dont on aura peut-être l'occasion de parler, et puis le musée de Münster, devrais-je dire, en Allemagne. Il n'est pas né Picasso, ce Picasso, puisqu'en fait c'était le nom de sa mère, figurez-vous. Son père s'appelait José Ruiz Blasco. C'était lui-même un dessinateur, un artiste. Hein. Il enseignait le dessin à l'école provinciale des beaux-arts de la ville. Il était, quand je dis de la ville, on est à Malaga, justement, en Andalousie, bien entendu. Et il était aussi conservateur du musée de Malaga, ce José Luis, José Ruiz, si je puis dire, Blasco. Ce qui veut dire que Pablo est né Pablo Ruiz Blasco. Et vous verrez tout à l'heure pourquoi il a pris le nom de Picasso. C'était sa mère qui s'appelait Doña María Picasso y López. Il avait 2 sœurs. Dolores, qu'on appelait Lola dans la famille, et Concepción, qu'on appelle Conchita. Pablo, très jeune, quand je dis très jeune, c'est vraiment peut-être pas tout à fait au berceau, mais enfin il y a des légendes comme ça qui en font une sorte, c'est plus qu'un génie précoce là. C'est quelqu'un qui, en quelque sorte, n'aurait jamais fait de dessin d'enfant. « J'ai jamais fait de dessin d'enfant », disait-il lui-même. « À 12 ans, je dessinais déjà comme Raphaël. » Vous voyez un petit peu la modestie du personnage. Tout de suite, on voit à qui on va avoir affaire. Il n'a pas entièrement tort, cependant. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde les tableaux qu'il a peints quand il avait 7 ou 8 ans, c'est assez stupéfiant. J'ai là sous les yeux le petit Picador, qui s'inspire d'une scène du monde de la corrida. Vous savez, sa première peinture à l'huile. Elle l'a toujours suivi d'ailleurs, comme une sorte de talisman. Il se promenait avec elle, si je puis dire. Et cette petite peinture, même si elle présente encore quelques aspects naïfs, c'est vrai, est sidérante par son inspiration, par la présence des personnages qui littéralement sortent de la petite toile. C'est assez extraordinaire. À 12 ans, Pablo va donc entrer à l'école des Beaux-Arts de la Corogne, en Galicie. On est là donc, la Corogne, c'est le nord-ouest de l'Espagne. Son père y enseigne là désormais. Il va apprendre le dessin et la peinture et c'est un choc familial qui peut-être va servir chez lui de véritable déclencheur. Sa sœur, la petite Conchita, tombe malade. C'est l'époque où il y a des épidémies de diphtérie. Vous savez, c'est terrible. Hein, il faut imaginer toute la famille en prière. Et là, on peut dire que c'est la carrière même de Picasso et donc l'existence d'un des grands génies de l'art qui est en cause puisque Picasso va faire un serment à Dieu. Vous savez, quand on est petit comme ça, ça se comprend. Sa petite sœur, pour lui, c'est tout. Il ne veut pas qu'elle meure. Alors, il dit que si Dieu sauve sa sœur, lui renoncera. Alors, il cherche à quoi il pourrait bien renoncer. Qu'est-ce qu'il y a de plus cher, de plus important, de plus essentiel dans sa vie? La peinture, évidemment. Eh bien, si Dieu sauve sa sœur, il renoncera à la peinture. Et pardon de dire ça, mais on a envie de dire, heureusement, Dieu n'a pas sauvé la petite sœur. J'ai vraiment d'une cruauté ce midi, c'est pas mal. Elle meurt en janvier 1895. Picasso est complètement inconsolable, mais alors, comme dans une sorte de revanche avec la force de d'Hercule, la force taurine qui l'incarne et qui le tiendra jusqu'à la fin de sa vie, il va se jeter littéralement dans le travail. Il entre dès l'année suivante à l'école des beaux-arts de Barcelone, à la LONRA, où son père est encore professeur. Vous voyez qu'il suit quand même son père. Vous voyez pourquoi il va pas pouvoir s'appeler Blasco? C'est que il ne peut pas être une sorte de Blasco bis d'une certaine manière. Et alors, il y a des épreuves pour entrer dans cette école, bien entendu. On donne un certain nombre de sujets à traiter aux candidats et on leur donne un mois pour réaliser les œuvres. En combien de temps, d'après vous, Pablo va-t-il les réaliser? Une journée. Le soir même, il a fourni les œuvres et il est tout de suite intégré. Et la légende raconte que ce soir-là, le père de Picasso, à la fois très fier et un peu bouleversé de voir le talent inouï de ce tout jeune garçon, aurait donné sa palette, ses pinceaux, ses couleurs à l'enfant en lui disant « Écoute-moi, vraiment, jamais mon talent ne pourra égaler le tien, je renonce à jamais à peindre. » Ce qui ne fera pas, hein, du reste, puisque jusqu'à sa mort, José Ruiz continuera de peindre. Picasso va, à l'école des Beaux-Arts, découvrir d'abord les grands maîtres espagnols. Nous avons parlé de Velázquez l'autre jour, bien entendu. Aussi le Greco, qui va jouer un rôle essentiel dans sa formation. Et puis Goya. Est-ce que finalement les surgissements un peu incalculables du génie de Picasso ne sont pas à chercher quelque part dans la lumière sombre de Goya? Et puis, parce qu'on ne s'intéresse pas seulement aux artistes espagnols dans cette école espagnole, il découvre les grands maîtres français, Poussin par exemple. Alors on se dit, tiens, quel rapport? Ben oui, il y a un colorisme chez Poussin qu'on retrouvera presque décalqué chez le jeune Picasso. Il s'intéresse aussi, ça c'est peut-être plus intéressant pour nous, il s'intéresse à ce qui à l'époque est en train de devenir à la mode. On est en 1895, hein. C'est l'époque où on est en train de découvrir tous les arts qu'on a appelé primitif. Et Picasso va attacher une très grande importance, prêter un très grand intérêt à la sculpture africaine, à l'art des Cyclades, dans ce qu'il a de tellement essentiel. On trouve d'ailleurs peut-être un peu déjà de l'influence de tout ça dans La fillette aux pieds nus de juillet 95, une grande huile sur toile. Alors, je l'ai là encore sous les yeux, cette toile de Picasso, du tout jeune Picasso. Et alors, non seulement elle a les pieds nus, la petite fille, mais elle a de gros pieds, si je puis dire. C'est assez étonnant parce que l'ensemble de la composition est relativement classique, quoique, mais alors, il lui a fait des pieds de monstre qui annoncent déjà cette espèce d'anamorphose permanente et ce jeu sur les gonflements de chair, si je puis dire, qui un jour caractérisera Picasso. Alors, dès l'année suivante, il passe le concours d'entrée à l'Académie des Beaux-Arts San Fernando à Madrid. Inutile de vous dire qu'il le réussit. Je ne vais pas vous dire à chaque fois tout ce qu'il réussit, puisque c'est presque fatigant. Cet artiste-là a toujours tout passé haut la main, bien entendu. Et on va le voir là, passer beaucoup d'heures au Prado à copier les maîtres. C'est important de dire ça, parce qu'on a aujourd'hui l'image d'un Picasso maître de la déstructuration, d'un Picasso qui peint certaines des toutes dernières œuvres, un peu comme n'importe quel enfant pourrait le faire. Croit-on, pense-t-on quand on ne connaît pas bien la chose? En fait, on est en présence d'un génie qui est passé par tous les stades d'une formation qu'on peut qualifier de classique et qui, dans le cadre notamment de Madrid et de ce Prado et de cette académie, vont lui conférer la maîtrise d'un maître, hein, d'un grand, d'une certaine manière. Picasso va exposer son tableau La Première Communion à 15 ans à l'exposition des arts décoratifs de Barcelone. C'est un tableau incroyable. Il n'est pas primé, mais la presse le salue. Je dis que c'est incroyable parce que vous avez une petite fille qui est en train de faire sa communion au premier plan, donc elle est dans une aube toute blanche avec un voile blanc, etc. Son missel lui-même rayonne d'une lumière très blanche, comme le surplis de l'autel, le surplis de l'enfant de cœur, et comme la nappe de l'autel, qui porte un nom d'ailleurs, j'ai oublié le terme technique, peu importe, mais en tout cas tous ces linges très blancs donnent le sentiment d'une sorte de luminosité interne à la toile. Chez un artiste de 15 ans, ça donne quand même un peu des frissons, on se dit mais où s'arrêtera-t-il ce gamin-là ?
Europe 1, un extrait de l'invitation au château de Francis Poulenc. On vous retrouve, Franck Ferrand, pour la suite de votre récit sur les débuts incroyables de Pablo Picasso.
Alors, vous avez bien compris qu'il y a ce paradoxe quasi natif dans l'art immense de Picasso, d'un homme qui se forme à l'école des maîtres et qui en même temps va constamment vouloir les dépasser, leur répondre, les détourner d'une certaine manière. Il y a la volonté d'indépendance chevillée au corps de ce jeune homme. Il est vraiment un électron libre, comme nous dirions aujourd'hui dans un jargon qui n'est peut-être pas très très élégant. Et puis alors, il faut dire aussi qu'il fréquente un milieu artistique très très nourri. Il y a un bouillon de culture autour de lui. Il est dans le El Círculo Artístico, c'est-à-dire le cercle artistique de Barcelone, et il en profite d'ailleurs pour faire pas mal de portraits, il fait des académies aussi, hein, des académies, c'est-à-dire des portraits de nus. Il expose 150 dessins et pastels dans un café d'artistes de Barcelone qui s'appelle aux Quatre Chats. Or, dans ce café, il y a non seulement toute la faune barcelonaise, hein, il y a tous les artistes de l'époque, je ne vais pas vous citer leurs noms parce que je pense que pour la plupart d'entre vous, en tout cas, ça ne vous dirait pas grand-chose forcément, mais dites-vous que ce sont tous les artistes qui comptent à l'époque à Barcelone, mais il y a aussi une forte influence française. On n'est pas loin de la frontière, après tout. On s'intéresse beaucoup à ce qui se passe en France en général, et plus particulièrement à Paris. Car, et ça, il faut bien se le figurer, à cette époque, c'est amusant d'ailleurs de parler de figurer dans une émission qui va bientôt tourner le dos à l'art figuratif, il y a à l'époque une attraction parisienne qui va bien au-delà des frontières de la France et même de l'Europe d'ailleurs. Paris, c'est la capitale artistique du monde. Hein. Des milliers d'artistes sont là pour s'y former, s'y sont installés, peignent à tous les niveaux. Alors, il y a Montparnasse, bien entendu, il y a Montmartre, etc. Et ça, sur Picasso, ça exerce un véritable pouvoir d'attraction. Il va postuler pour l'exposition universelle de 1900, pavillon espagnol, bien entendu, et une de ses œuvres est choisie. Donc ça va être une bonne excuse pour aller à Paris et pour voir un peu ce qui se passe là-bas. L'œuvre en question, je ne peux pas vous la décrire parce qu'elle n'existe plus. Elle se trouve en ce moment recouverte par une des œuvres les plus célèbres de Picasso qui s'appelle La Vie et dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc il fait son premier voyage et ce premier voyage, il ne le fait pas seul. Peut-être que seul, il ne serait jamais venu à Paris d'ailleurs, car au fond, il y a quelque chose d'un peu casanier et d'irréductiblement espagnol en Pablo. Mais il a un copain qui, lui, est un voyageur né. Il s'appelle Carlos Casaremas. Et ce Casaremas joue un rôle absolument essentiel. C'est lui qui va l'emmener, si je puis dire. Alors, ils vont louer un petit appartement sur la butte Montmartre. Et là, on découvre, bien sûr, Toulouse-Lautrec, Degas. Cézanne, qui va jouer un rôle absolument essentiel chez Picasso. Et puis, des artistes qui vont plus loin dans la recherche formelle et dans la révolution picturale. Je pense à Gauguin, notamment. Or, et ça c'est assez étonnant, il y a un grand marchand à l'époque, vous savez, on en parle toujours, c'est Ambroise Vollard, bien entendu. Eh bien, Vollard va, avec cette espèce de prescience et de goût très sûr qu'il caractérise, déceler en Picasso un très grand artiste en herbe, et il va exposer tout de suite 64 peintures de Picasso, vous imaginez. Ce qui fait que très vite, on se met à acheter des toiles de Picasso. En 1901, l'année de ses 20 ans, Picasso, alors je l'appelle Picasso depuis tout à l'heure, mais j'aurais dû l'appeler, et évidemment j'aurais dû lui donner son nom de Blasco, il va décider là de s'appeler Picasso. Ça va être son véritable nom, le nom d'un artiste qui vend, si je puis dire. Et n'oubliez jamais que derrière le génie incontestable se cache un homme d'affaires qui n'est pas moins extraordinaire et qui va faire de Picasso un des artistes les plus fortunés du XXe siècle, bien entendu. Donc, il est à Paris, mais ça n'empêche pas de retourner de temps en temps en France. Il s'installera définitivement à Paris en 1904, sauf qu'entre-temps, en février 91, alors là, événement. Lui est en Espagne à ce moment-là. Et Casaremas, je vous en ai parlé de Carlos, de son meilleur copain, qui est en France seul depuis janvier 1901, est tombé amoureux d'une très très jolie fille, Laure Germaine Cargallo. Sauf que la fille en question multiplie les amants d'un soir, elle est vraiment pas du tout sérieuse, elle se moque complètement de lui, il est très malheureux le pauvre Carlos, il sombre dans l'alcool et bientôt dans la dépression, et le 17 février, il va faire ce que font les gens désespérés, c'est terrible, il convie un certain nombre d'amis, dont Germaine, qui est là, juste à sa droite. Il les convie dans un petit restaurant qui s'appelle l'Hippodrome, boulevard de... D'ailleurs, je dis un petit restaurant, c'est plutôt un grand restaurant d'ailleurs, l'Hippodrome, boulevard de Clichy. Et durant le dîner, Carlos se lève Il fait tout un petit discours, en français s'il vous plaît, et là, il sort de sa poche un pistolet, il le dirige vers Germaine, et au dernier moment, dans une espèce de, vous imaginez, la sidération de tous les jeunes gens qui sont là autour de la table, il retourne l'arme contre sa tempe, et il tire, bien entendu. Et ça, pour Picasso, ça va être terrible. D'ailleurs, personne n'a pris le soin de le prévenir. Bon, évidemment, les communications ne sont pas ce qu'elles sont devenues, mais il va rentrer d'Espagne en croyant retrouver Carlos, et il arrive, son copain est mort. Pour lui, ça va être un drame terrible. On peut dire que pour sa peinture, c'est une sorte de fracture, de cataracte. C'est un abîme dans lequel il va plonger d'une certaine manière. J'ai commencé la peinture dans le bleu quand j'ai appris la mort de Casaremas, dira-t-il. Et c'est vrai qu'on entre dans ce qu'on va appeler la période bleue, parce que vous savez qu'il y a des périodes chez Picasso pour définir les différents stades de son œuvre et d'une évolution sans cesse en mouvement. Et c'est l'époque de ces espèces de toiles monochromes. Quand je dis monochrome, il y a un petit peu de carmin, un petit peu de vert ou de marron de temps en temps, un poil de jaune, mais l'essentiel est bleu, bleu comme la mélancolie, bleu comme les sujets, si je puis dire, d'un Picasso qui va emprunter à ce moment-là à toutes les scènes de rue. On y voit beaucoup de pauvres, de mendiants, d'aveugles, de personnages faméliques qui peuvent faire songer d'ailleurs à l'œuvre du Gréco à cette époque. Alors, il continue à faire l'aller-retour en France, entre la France et l'Espagne. Il va s'installer dans son ancien atelier de Barcelone, d'ailleurs, avec Ángel Fernández de Soto. Et il y peint les toits en terrasse du voisinage, la fameuse toise à Barcelone, qui est un petit peu considérée comme l'archétype de la période bleue, justement. Et puis, cette fameuse toile, La Vie, qui à l'origine devait être un autoportrait en slip, si je puis dire. C'est assez étrange, le personnage est presque nu de face. En fait, il y a deux femmes sur le tableau, une habillée, l'autre nue contre lui, et il va changer les deux visages. Il va mettre à la place de son visage celui de Casaremas, et à la place du visage de la jeune fille, celui de Germaine. On peut dire que dans ce tableau, La Vie, il y a peut-être le début d'un legs chez Picasso, c'est le début de l'héritage. Ça, il commence déjà presque à songer à sa postérité, c'est incroyable quand je vous dis qu'il est très précoce. Ce tableau est tellement splendide qu'il nous fait passer le fait qu'il ait recouvert sa première œuvre exposée.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Un génie du XXe siècle est au cœur de l'histoire. Vous revenez, Franck Ferrand, sur les premières années de l'immense carrière de Pablo Picasso.
Alors, Picasso s'est installé à Paris en 1904, je vous l'ai dit. Entre parenthèses, il n'aura jamais la nationalité française. Il est espagnol jusqu'au bout, Picasso. Au tout début de la guerre, en 1940, il l'a demandé et on l'a lui a refusé, cette nationalité, au passage. Bon, je ferme cette parenthèse. Il s'installe dans un misérable atelier de Montmartre qu'on appelle le Bateau Lavoir. Alors, je dis misérable, mais évidemment, quand on prononce ce nom pour les amateurs, pour les amoureux de l'art, c'est un nom qui est devenu absolument mythique. Le nom avait été donné par Max Jacob parce que c'était un ancien bateau lavoir. Vous savez, on accédait à la bâtisse par ce qu'on appelait bateau lavoir, c'est-à-dire une sorte de lavoir suspendu, si vous voulez, flottant en quelque sorte. Alors, il va faire la rencontre là d'André Salmon, de Guillaume Apollinaire, qui va jouer un rôle absolument essentiel. Rappelez-vous du rôle d'Apollinaire et de Picasso dans le fameux vol de la Joconde. Nous avions raconté ça. J'avais eu l'occasion de vous le raconter à ce même micro. Et puis, il rencontre une femme, Fernande Olivier, qui sera son modèle, qui sera sa compagne pendant 7 ans. On le voit souvent à Montmartre au café Au Lapin Agile, qui est le très célèbre café de l'époque. Eh ben, on va dire que ça va mieux, évidemment. Il oublie son chagrin, Picasso, et de la période bleue, on va passer tranquillement à une période rose. Encore un peu monochrome, un petit peu moins peut-être. La dominante à l'époque est le fauvisme. C'est une époque heureuse, en fait, évidemment. D'ailleurs, intéressant, Picasso, parce que quand il va bien, les toiles vont bien, si je puis dire, et puis quand il va mal, ça se voit tout de suite. Il est transparent, cet homme-là. Quoique, j'ai dit beaucoup quoique depuis le début, mais parce que il n'est qu'un paradoxe ambulant. Il a l'air transparent. Peut-être qu'en fait, il cache au deuxième degré, il cache très bien son jeu. Les couleurs se font en tout cas nettement plus chaudes, avec un thème, celui du cirque, qui séduit évidemment beaucoup le public. Ça va être le début du succès vraiment de Picasso. On a les gens du voyage, les arlequins aux costumes bariolés, les acrobates aux corps déliés, etc. Le fameux acrobate à la boule auquel on pense tout de suite, mais il y en a pas mal d'autres. Picasso. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a cette dimension qui fait songer aux artistes de la Renaissance. Il ne va pas exceller seulement dans un art, mais dans bien d'autres, puisque c'est à cette époque qu'il se lance dans la sculpture. On le voit travailler la cire, la terre, le bronze. C'est l'époque où il va faire le fou, vous savez, en 1905, hein, cette espèce de bouffon avec son drôle de sourire, son regard effroyablement creux et son chapeau, bien sûr, de bouffon. Picasso va séjourner un peu en Catalogne, où l'on accède au village de Cossol, où on accède qu'à dos de mulet. Et là, on va voir la période rose évoluer, si je puis dire. On va voir entrer de l'ocre rouge. Les thèmes vont changer. On va se tourner vers le monde antique, vers un univers peut-être plus bucolique, vers des corps de plus en plus dénudés, avec une modification, je vous le disais, de la planète, de la palette, qui est un petit peu, en quelque sorte, le reflet de la terre qu'il a autour de lui, hein, cette terre rouge assez extraordinaire. Les espaces d'étoiles aussi sont assez étranges, puisque peu à peu les figures vont se confondre avec la surface de la toile, l'arrière-plan en quelque sorte disparaît, on a l'impression que tout ça est en train de basculer dans un gentil éther, avec une ténacité du regard, une solidité du corps, légèrement déformée et de plus en plus déformée. Vous voyez qu'on voit poindre déjà ce qui se fera bientôt la célébrité mondiale de Picasso. Il y a une toile majeure à l'époque, c'est les deux frères, on en dira un mot avec Serge tout à l'heure. Bref, la peinture est en train de changer. Elle est en train de se déformer d'une certaine manière. Les membres s'allongent, certaines parties du corps s'épaississent. La peinture devient vraiment un aplat. On n'est plus qu'en deux dimensions d'une certaine manière, comme s'il voulait volontairement oublier la troisième dimension qu'il maîtrisait pourtant si bien. Et puis, on est à l'époque de la mort de Cézanne. Et c'est comme un hommage à César, à Cézanne, pardon, à César ça, peut-être, mais ça viendra plus tard. C'est comme un hommage à Cézanne que Picasso va réaliser son fameux chef-d'œuvre, Les Demoiselles d'Avignon, qui sont le manifeste du cubisme. Mais là, on arrive dans ce que j'appellerais le grand art. Et là, bien entendu, je ne suis bien forcé de céder la parole à Serge Legas. Bonjour Serge, merci d'être venu. On va parler bien sûr des Demoiselles d'Avignon, mais de toutes les autres grandes œuvres de Picasso, peut-être pas toutes, parce qu'il y en a tellement, tellement
que ce serait très long.
Ça nous tiendrait jusqu'à demain.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Picasso tient le monde au bout de sa palette. Des lèvres, des luards s'envolent des colombes. Ils n'en finissent pas, tes artistes prophètes, de dire qu'il est temps que le malheur succombe. Ma France, leurs voix se multiplient à n'en plus faire qu'une.
Jean Ferrat sur Europe 1 avec un extrait de sa chanson de 1969, Ma France. On retrouve le maître des Demoiselles d'Avignon, le peintre espagnol Pablo Picasso est au cœur de l'histoire. Vous recevez Franck Ferrand, le conférencier des musées nationaux Serge Legas, professeur à l'Institut d'études supérieures des arts.
Alors Serge, il y a énormément de choses à évoquer. On va parler des Demoiselles d'Avignon dans un instant, mais peut-être précisons une fois pour toutes et pour clarifier les choses, parce que je pense que ça n'est pas tout à fait clair dans l'esprit de tout le monde, et même parfois dans le mien, Picasso est un peintre figuratif.
Ah oui, ça je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut ancrer justement dans l'esprit de nos auditeurs. C'est que Picasso a absolument flirté avec toutes les tendances artistiques, de la peinture la plus académique, comme vous l'avez dit Franck au début de sa carrière, jusqu'aux audaces des derniers tableaux. Il y a une chose qu'il ne franchit jamais, c'est le passage de la figuration à l'abstraction. Il est aux
quasiment
portes.
Pas d'abstrait.
On est vraiment à l'époque du cubisme le plus hermétique aux portes. Et justement, au moment où la seule étape serait le passage à l'abstraction, il fait marche arrière et il revient à la figuration. Donc, profondément, Picasso est figuratif.
Entre nous, mais ça n'engage que moi, est-ce que ça n'est pas une des raisons de son succès? C'est que tout en allant très loin dans l'invention formelle et dans ce qu'on appelle le contemporain, il reste néanmoins figuratif. Donc il ne se coupe pas tout à fait du grand public, si je puis dire.
Et Franck, vous en avez parlé, en plus Picasso est un héritier. C'est aussi une notion qu'il faut remettre en place, et vous l'avez d'ailleurs évoqué, c'est que Picasso n'est pas du tout un peintre de la table rase. Il y aura des artistes à la même époque qui considèrent que l'art du passé c'est un art mort.
Oui, bien sûr, il y en a beaucoup,
et les futuristes italiens disaient il faut brûler les musées. Picasso c'est l'antithèse. Donc c'est un héritier et c'est un peintre figuratif.
C'est c'est Marianne qui, via Twitter, nous signale que la compagne des débuts de Picasso, Fernande Olivier, dont je parlais tout à l'heure, a publié Picasso et ses amis, une mine d'anecdotes sur l'époque du bateau Lavoir, nous dit-elle.
Et plusieurs des compagnes de Picasso ont écrit des textes. Picasso était absolument furieux de ces textes à chaque fois et il menaçait toutes les femmes qui ont partagé sa vie au moment des publications.
Alors, artiste figuratif, certes, mais il y a figuration et figuration, si je puis dire. Comment passe-t-on du tableau quasi académique, hyper réaliste d'une certaine manière, qui s'appelle Les Deux Frères, 1906, aux Demoiselles d'Avignon, 1907, où on est dans une sorte de kaléidoscope cubiste?
C'est justement la magie de Picasso. C'est que Picasso, en très peu de temps, est capable de montrer une évolution radicale à l'intérieur d'un seul tableau. La sculpture, d'ailleurs, connaît les mêmes évolutions. Et ce qui est tout à fait fascinant, c'est de voir comment, en un été, Picasso comprend et change radicalement sa façon de peindre. L'été à Gozol a été vraiment un changement radical pour lui. Et Les Demoiselles d'Avignon, c'est vraiment le résultat qui est le résultat d'un besoin, qui est un besoin de dépassement justement, de tout ce qui était encore une représentation dans une certaine dette de la tradition.
Alors il y a une époque où Picasso va faire du Picasso, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on serait bien en peine de chercher des influences, etc. Il est celui qui donne le ton à la planète entière, il est le maître avec un très grand M. Bon. Mais on n'en est pas encore là.
On en est même très loin.
Et on en est même très loin. Et là, pour le moment, il entre encore dans les modes du temps. Et parmi les grandes modes, il y a ce qu'on appelle le cubisme. Il faut peut-être expliquer.
Alors, le cubisme, il en est en même temps un des deux inventeurs. Le cubisme est vraiment créé par Picasso et Braque. N'oublions jamais le rôle capital de Braque en même temps. Et alors, le cubisme vient très nettement d'une remise en cause, justement, de la lecture de la peinture. Et vous en avez parlé, Franck. Un des points de départ du cubisme, c'est le peintre Cézanne. Cézanne est vraiment l'artiste qui va créer chez Picasso et Braque un électrochoc. Ils le connaissent, ils l'admirent, mais lors de la mort de Cézanne, il y a une grande rétrospective à Paris. Et c'est un choc absolu pour ces deux peintres parce qu'ils voient tout ce que Cézanne a apporté à la peinture occidentale et toute la révolution que représente Cézanne. Et d'ailleurs, va naître vraiment le cubisme à ce moment-là. Et comme par hasard, la première phase du cubisme, on l'appelle le cubisme cézannien. Par la suite, il y aura d'autres évolutions, mais le point de départ, c'est Cézanne. Donc on géométrise les formes, on les simplifie, on remet en cause les règles de perspective traditionnelles. On est dans une relecture de la notion d'espace et de la notion de figure intégrée au tableau.
Alors, je disais tout à l'heure que le peintre était transparent et qu'en fonction de ses humeurs, les œuvres étaient plus ou moins sombres ou plus ou moins lumineuses. Ah mais il faut dire surtout que ce sont ses amours qui le dominent, en quelque sorte.
C'est totalement étonnant et je suis ravi que vous ayez dit cela, Franck, parce que je pense que Picasso est justement un peintre qu'il ne faut pas trop intellectualiser par moments. Picasso fait partie de ces artistes, comme d'ailleurs à une autre époque l'était Rembrandt, qui sont ces artistes que j'appellerais du premier degré. Quand les choses vont bien, ça se voit. Quand les choses vont mal, ça se voit. Vous avez parlé du suicide de son grand ami Cazaremas, qui est un choc absolu. Le drame fait que commence la période bleue. Et au niveau des femmes qui ont partagé sa vie, d'ailleurs, soyons francs, généralement, elles tiennent une dizaine d'années. Hein, et c'est vraiment
et les quand plus... Quand on dit elles tiennent, c'est le mot.
Et
hein.
C'est vraiment les plus résistantes. Mais généralement, on est à peu près à ce niveau-là. Et c'est tout à fait extraordinaire. Quand il les aime, il les magnifie. Quand il ne peut plus les supporter.
Il en fait des déesses. Vous imaginez, il faut quand même expliquer ça à nos auditrices. Vous imaginez ce que c'est qu'être porté au nu par un homme dont on sent à chaque instant qu'il est un des génies du temps.
Oui,
c'est tout à fait extraordinaire.
Un monstre sacré. Alors là, je crois que vraiment Picasso mérite ce terme. Et en même temps, il les aime, il les idéalise, il les peint avec un plaisir sensuel, sexuel. Mais quand il commence à ne plus les supporter, il les détruit déjà dans sa peinture. Et généralement, le signe est déjà avant-coureur d'une rupture qui s'annonce.
C'est le portrait de Dorian Gray. On voit la femme exploser, si je puis dire, sur la toile avant de disparaître.
Et comme en plus chez Picasso, évidemment, quand il ne supporte pas une femme, il y a déjà la remplaçante qui est évidemment déjà dans sa vie. On voit très très bien comment se crée le passage de l'une à l'autre et comment une nouvelle icône est magnifiée et mise en valeur et comment la précédente commence à disparaître déjà dans la peinture.
Alors, j'ai parlé tout à l'heure de la Deuxième Guerre mondiale qui va jouer un rôle absolument essentiel dans son art, mais la première aussi, d'une certaine manière. Alors, la première, comme il n'est pas français, il appartient à des pays neutres, il n'entre pas dans la guerre.
Hein. Il ne fait pas la guerre.
Il ne fait pas la guerre, mais néanmoins, c'est une période très troublée. J'ai parlé de l'histoire avec Apollinaire du vol de la Joconde, ça c'est juste avant. Ensuite, il y a cette affaire des ballets russes, surtout. Hein.
Bien sûr, alors ça se situera vraiment
aussi,
à la fin de la Première Guerre mondiale, puisqu'on est à peu près vers 1917, voilà, à ce moment-là. Mais le phénomène de la guerre est aussi ce qu'il faut bien voir, un choc absolu, puisque si Picasso, lui, ne participe pas à la guerre, certains des amis les plus proches de Picasso font une guerre absolument terrible. D'ailleurs, Braque, dont on vient de parler, connaîtra une guerre abominable, il sera trépané, il va passer à deux doigts de disparaître. Et d'ailleurs, ça, c'est aussi le côté terrible de Picasso. Picasso et Braque, par la suite, vont évoluer très différemment en peinture. Et un jour, des années plus tard, Picasso verra la peinture de Braque, il aura cette phrase horrible de dire « au fond, il n'en est jamais revenu ». Ce qui est d'ailleurs très injuste, parce que l'œuvre de Braque est absolument prodigieuse dans son évolution. Mais ça, c'est également la férocité de Picasso. Picasso est un homme aussi admirable que détestable.
Mais en fait, est-ce que tout simplement, on n'est pas en présence d'un des plus grands égos qui ait jamais vécu ?
Surdimensionné, absolument surdimensionné. Moi, je trouve qu'on est dans ce genre de famille, je ne sais pas pourquoi, mais Picasso me fait toujours penser aussi à l'égo d'un Victor Hugo,
par exemple.
Voilà, exactement. On est exactement dans le même genre de figure. Et d'ailleurs, les femmes autour, Juliette Drouet, la malheureuse, a subi Victor Hugo, comme beaucoup de femmes de Picasso ont subi Picasso.
Oui. Alors quand vous dites qu'elles l'ont subi, il y en a plusieurs qui vont mal tourner hein, quand même.
Oui, et ce qui est le plus étonnant, c'est que plusieurs des femmes de Picasso ne se remettront pas de la disparition de Picasso. Et ça, c'est aussi une chose absolument terrible chez Picasso. Picasso, qui a connu le suicide très tôt avec la mort de son ami dont on a parlé, sera d'une certaine façon suivi par des suicides. Deux des femmes de sa vie se sont suicidées après sa mort, Marie-Thérèse Walter et puis sa dernière épouse, au sens le plus légal du terme, Jacqueline Roch, qui se suicidera également. Elle ne supporte pas la vie sans Picasso, même si elle ne vit plus avec lui. Mais il est encore sur Terre.
Alors, on n'a pas parlé de toutes ces femmes. Il aurait fallu dire un mot d'Eva Gouel. On va passer peut-être un peu vite. Olga Koklova, était une danseuse des ballets russes.
En simplifiant beaucoup, les femmes importantes, c'est un peu Barbe Bleue, Picasso. La première, on en a parlé, c'est Fernande Olivier. C'est la femme maternelle qui le protège un petit peu au bateau Lavoir. La muse du cubisme, c'est la petite Eva Gouel, qui est une femme malade. Elle va mourir de tuberculose très jeune. Et elle comprend l'évolution picturale de Picasso. C'est vraiment elle qui le soutient dans les recherches du cubisme. Et puis, il y aura Olga, qui est sa première épouse. Et ça aussi, c'est très beau. C'est une danseuse russe. Elle fait partie de la troupe des ballets russes. Et alors, elle est d'une beauté absolument renversante.
D'ailleurs, il y a un portrait d'elle, à mon avis, indépassable.
Somptueux. Ouais. Et elle aura une très jolie formule. Quand Picasso lui fait la cour, elle lui répond « Mon petit ami, une russe, ça s'épouse. » Et Picasso la rencontre en 17, il l'épouse en 18. Il a compris le message. S'il veut arriver à ses fins avec Olga, il l'épouse. Ça sera sa première épouse. Et ça sera la première. Et il y en aura une deuxième, je viens de le dire, c'est Jacqueline Roch, parce que Olga n'a jamais accepté le divorce. Donc Picasso et elle seront séparés, mais ils ne divorceront jamais. Voilà pourquoi Picasso ne s'est marié que deux fois. Il a d'abord épousé Olga et quand Olga décède, quelques années plus tard, il épousera Jacqueline.
J'ai sous les yeux la femme qui pleure. Parce que pendant que vous parlez, je regarde en même temps quelques toiles.
Alors c'est Dora Maar.
Ah ça c'est terrible. Hein.
Alors la femme qui pleure, comme par hasard, elle suit la femme qui dort. Puisqu'il y avait eu après Olga, Marie-Thérèse Walter, qui est une femme charmante, tout en rondeur, tout en blondeur. La suivante, comme par hasard, est brune. Totalement l'antithèse. Alors ça aussi, chez Picasso, c'est très clair. On ne passait jamais que d'une femme à son contraire absolu et direct. Elle devait être totalement différente. Marie-Thérèse Walter était une jeune femme très modeste, très simple. Dora Maar était une intellectuelle, très grande photographe, très proche des surréalistes, très lancée dans le monde de l'intelligentsia parisienne. Et Picasso, en même temps, voit en elle toutes les fêlures et il la surnomme très vite la femme qui pleure. Et il aura raison, puisqu'elle se remettra très mal de sa liaison avec Picasso, puisqu'elle va quand même passer une dizaine d'années en hôpital psychiatrique après la vie avec Picasso.
Finalement, il ne fait pas bon être aimé de Picasso.
Il faut trouver des espoirs. Dora Maar trouvera tout compte fait une rémission par la religion. Par la suite, elle deviendra totalement mystique. Donc, il y a eu la phase Picasso, la phase hôpital psychiatrique et puis la phase totalement mystique.
D'un dieu à l'autre.
Voilà, exactement.
Dans un instant, nous arrivons au moment le plus crucial puisque nous parlons de Guernica.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
L'œuvre de Pablo Picasso est au cœur de l'histoire. Votre invité Franck Ferrand, Serge Lega, conférencier des musées nationaux et professeur à l'Institut d'études supérieures des arts.
On arrive à Guernica dans un instant. Un mot quand même des baigneuses, parce que après la période bleue, la période rose, il y a la fameuse période des baigneuses quand même.
Oui, qui est une très très belle période. Alors c'est aussi très intéressant, parce que le thème des baigneuses est comme par hasard un thème récurrent de la peinture traditionnelle. Picasso y revient, c'était un thème de Cézanne, il le reprend. Et Picasso va le traiter de façon différente. C'est-à-dire que dans certaines des baigneuses, on est dans les années 1925-26, on est totalement dans le flirt de Picasso avec le surréalisme, c'est-à-dire des baigneuses avec des corps étranges, des formes tout à fait étonnantes qui sont au-delà de la représentation habituelle du corps féminin. Et puis l'on aura au contraire ce qu'on appelle la période des géantes, c'est-à-dire des baigneuses absolument monumentales, sculpturales, et qui deviennent des formes qui sont des sortes d'idoles représentant la puissance du corps de la femme. Picasso travaille le corps féminin à travers justement ces différentes visions et les baigneuses, c'est un thème qu'il traitera tout au long de sa carrière.
Avec des aspects obsessionnels, je crois que le mot n'est pas trop fort. Hein.
Oui, il est totalement obsédé et il est très 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 obsessionnel d'abord le côté le plus sexuel du corps de la femme. La nudité de la femme est un thème qui l'obsède, il aime les femmes. Alors ça, Picasso, c'est au vrai sens du terme un amateur de femmes, c'est un consommateur de femmes au sens le plus charnel du terme et c'est quelqu'un qui a besoin, vraiment. Et d'ailleurs, quelqu'un dont on n'a pas parlé, mais ça avait été une des grandes énigmes de Picasso, c'est quand il avait rencontré à Paris Gertrude Stein, une des premières américaines, juives américaines, qui s'était intéressée à l'œuvre de Picasso et qui l'avait achetée. On a le fameux portrait de Gertrude Stein, sur lequel Picasso a beaucoup travaillé, avec beaucoup de problèmes d'ailleurs. Et là, pour Picasso, c'était quelque chose de sidérant, puisqu'il avait face à lui une femme qui n'aimait pas les hommes. Ce qui, pour Picasso, est incompréhensible. Une femme, ça doit aimer et servir un homme. Picasso
est
très macho.
Lui,
absolument.
Évidemment, hein, puisque tout tourne autour de lui.
Picasso avait une formule terrible sur les femmes. Il disait que dans le monde féminin, il y a deux catégories. Ce qu'il appelait les femmes torchons, je suis désolé mesdames. Pour lui, c'était 90% des femmes, c'est celles qui servent l'homme. Et puis la petite frange des muses. Alors les muses, c'est celles qui inspirent l'homme. Soyons francs, elles sont quand même très minoritaires.
Elles sont minoritaires et pas forcément plus heureuses, entre nous, soit dit.
Alors,
quand on va à Madrid, il y a deux chocs esthétiques extraordinaires. D'abord, bien sûr, les Ménines de Velázquez au musée du Prado.
Sur lesquels Picasso travaillera.
Alors voilà, c'est ça. Hein.
Il a fait 44 versions des Ménines.
On voit au musée Picasso.
Absolument, de Barcelone. C'est le principalement le musée de Barcelone qui présente
cet
ensemble.
Celui de l'Hôtel Salé aussi.
Absolument.
Hein,
je dirais que peut-être les œuvres les plus fortes sont à Barcelone. C'est le grand fond.
Et puis l'autre grande toile qu'il faut voir quand on est à Madrid, c'est bien sûr Guernica. Alors là, on en a parlé, on pourrait faire une émission entière.
Entière, oui.
Guernica, c'est la guerre avant la guerre.
C'est la guerre avant la guerre, c'est ce que certains diront, c'est une répétition générale. Ce qui est horrible, mais tellement juste, puisque Guernica, c'est ce bombardement des troupes allemandes, enfin du monde allemand, à la solde de Franco, sur une petite ville basque qui s'appelle Guernica. Cela a lieu le 26 avril 1937, et Picasso va commémorer cette répétition générale en faisant une peinture absolument extraordinaire. D'abord une peinture en noir et blanc, ce qui n'était pas forcément la première idée. Beaucoup des études sont en couleur. Et Picasso, prenant conscience que c'est un tableau de mort, que c'est la destruction, considère qu'il faut travailler en noir et blanc. Éluard dira d'ailleurs que c'est le faire-part de deuil de notre société. Ce qui est très juste quand on sait à quel point les deux guerres mondiales ont complètement changé l'esprit qui est l'esprit du monde contemporain.
Au moment où les Allemands ont envahi une partie de l'Europe, il y a des officiers allemands qui entrent dans son atelier. D'ailleurs, Picasso avait dit qu'il lèguerait la toile à l'Espagne quand elle serait devenue une démocratie.
Tout à fait.
Et on a tenu parole de ce point de vue.
Oui, oui, oui. Il avait dit très exactement quand l'Espagne sera devenue une république. Donc on n'a pas totalement tenu parole, mais on a considéré que, évidemment, le pouvoir de Juan Carlos était un monde totalement démocratique et que, bien sûr, le Guernica, qui était à New York, pouvait revenir en Espagne.
Alors racontez-nous, là, il y a les officiers qui entrent dans son...
Extraordinaire, c'est une scène superbe et Picasso a des photographies de son tableau, il les distribue et un des officiers allemands un peu naïvement dit « Ah mais oui, c'est vous qui avez fait ça !» Et Picasso regarde l'officier allemand, dit « Non, c'est vous qui avez fait ça !» Ce qui est évidemment une très belle phrase, une phrase assez courageuse par rapport à l'occupant allemand.
Il y a chez Picasso des fulgurances qui se retrouvent dans ses écrits et dans la manière qu'il a d'illustrer lui-même certains de ses écrits. D'ailleurs, ça nous amènera plutôt vers la toute fin de sa vie, bien sûr. Hein.
Bien sûr, absolument. Picasso est aussi un metteur en scène de sa propre image. Et puis c'est quelqu'un qui écrit admirablement bien et qui d'ailleurs fréquente beaucoup beaucoup d'intellectuels. On a parlé de Max Jacob, on a parlé d'Apollinaire. Il y a à l'époque des ballets russes, puisque Picasso a rencontré Diaghilev grâce à Jean Cocteau. Très grande amitié entre Picasso et Cocteau. Ils avaient entre autres un goût commun pour la tauromachie. Ils adoraient tous les deux les corridas auxquelles ils assistaient ensemble. Donc Picasso est entouré de grands intellectuels et qui sont des écrivains, des poètes.
On voit toujours, entre parenthèses, il est poète, il est dessinateur, illustrateur, graphiste, céramiste aussi. Ça, c'est à la fin de la guerre, en fait.
Oui, ça, c'est l'époque où il s'installe dans le milieu de la France, où il peut venir à Antibes, puisqu'il a la chance que le château d'Antibes est mis à sa disposition par le conservateur qui s'appelle Dore de la Souchère. Et Picasso peut travailler dans cet endroit merveilleux qui est devenu le musée Picasso d'Antibes. Et il y a à côté d'Antibes la petite ville de Valoris, qui est déjà un centre de céramique. Et Picasso va travailler dans l'atelier Madura. C'est là où il fera toutes ces céramiques qui se vendent encore très très bien. Oui. Alors de nos jours, évidemment, on a beaucoup de copies d'après Picasso.
On c'est un peu dire, attention danger.
Voilà, c'est un peu le problème.
Oui, il y a beaucoup beaucoup de contrefaçons qui circulent.
Énormément de faux, bien sûr, par rapport à cette œuvre de céramiste. Mais c'est une des choses qu'il aime profondément. Et il va travailler toutes les matières. Vous en avez parlé, Franck. C'est quelqu'un qui a ce côté génie universel là, comme les hommes de la Renaissance.
C'est Antibes, c'est le soleil, c'est la libération.
Ah, c'est la joie de vivre.
Ah oui.
La joie de vivre. D'ailleurs, c'est le grand thème des peintures qu'il peint et qui sont toujours à Antibes. C'est le thème de la joie de vivre. Alors là aussi, avec un petit clin d'œil, son rival admiré, le seul peintre qu'il mettait à sa hauteur, c'est-à-dire Matisse, avait peint beaucoup plus tôt le bonheur de vivre. Donc Picasso, comme par hasard, peint la joie de vivre après le bonheur de vivre de Matisse. Et c'est une sorte d'hommage. Là, vraiment, on a parlé de rivalité, mais c'est une rivalité, je dirais, dans l'harmonie et dans l'admiration réciproque. Matisse aime Picasso, Picasso aime Matisse. Évidemment, ils sont en rivalité, mais il y a vraiment une reconnaissance. D'ailleurs, à la mort de Matisse, Picasso dira, au fond, il n'y avait que Matisse.
Il y en a un auquel on rend hommage à Nice, bien entendu, dans ce merveilleux musée Matisse, et l'autre dans le non moins merveilleux musée Picasso d'Antibes. Il faut aller sur les fortifications de la vieille ville d'Antibes.
C'est un endroit merveilleux, ouais. En plus, qui domine, alors qui est également lié, bien
avec
sûr,
cette mer Méditerranée qui scintille derrière les
œuvres. C'est un endroit magique. C'est hélas là où, on en parle toujours, a eu lieu le fameux suicide contre de Nicolas de Staël.
Oui. Nicolas de Staël, en fait, n'a peut-être pas survécu à tant de beauté.
Et c'est peut-être ça. Puis bon, le suicide de Nicolas de Staël est très compliqué et beaucoup de questions sont encore autour.
Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on est encore loin de 1973.
Oui.
Or, on a l'impression d'avoir parlé déjà de deux, sinon trois artistes.
Mais pour beaucoup d'artistes. Alors, là aussi, c'est une chose qui me paraît très très importante. Picasso, c'est un homme qui ne s'est jamais arrêté. Et ça, je pense que c'est une des grandes forces de Picasso. On peut aimer ou ne pas aimer Picasso, ce sont des questions personnelles. On ne peut pas laisser de côté la puissance de Picasso. Et Picasso, une chose absolument magique, c'est que contrairement à d'autres peintres qui, le jour où ils sont enfin reconnus par le public ou par la critique, d'une certaine façon se fossilisent et répètent un peu systématiquement une même peinture. Ils ont enfin le succès et ils veulent le garder. Picasso, jamais. Jusqu'au bout de sa carrière, il renouvelle, il modifie, il change et il a un besoin à chaque fois d'aller plus loin.
Et ce que je trouve assez étonnant, c'est que bien que devenu lui-même la référence absolue, il continue à s'inspirer des maîtres. Vous parliez bien sûr de Velázquez à travers les Ménines tout à l'heure, mais il y a également d'autres maîtres dont il va s'inspirer.
C'est toute une série qui commence grosso modo à partir de 1950. Un des premiers chefs-d'œuvre sur lequel il travaille, ce sont les Demoiselles de bord de Seine de Courbet. Il travaillera sur le Déjeuner sur l'herbe de Manet. Il travaille bien sûr sur les Ménines de Velázquez. Il travaillera sur les Femmes d'Alger de Delacroix. Alors Picasso a toujours considéré que choisir une œuvre et travailler sur elle, c'est un hommage. Et Picasso avait une formule que j'adore. Il disait « Les bons artistes copient, les grands volent ». Et ça, c'est Picasso. C'est-à-dire qu'on doit comprendre un artiste et aller voler ce qu'il y a de plus original chez lui. Et c'est ce qu'il fait. Alors ça aussi, c'est la pire des stupidités quand on entend des gens dire « Mais mon Dieu, il a déformé, il a détruit le chef-d'œuvre ». Surtout pas. Pour Picasso, travailler sur une œuvre, c'est considérer que l'artiste et le tableau est suffisamment exceptionnel pour que lui-même travaille sur cette œuvre. C'est un hommage au sens plein du terme.
Évidemment, nous sommes à la radio, donc je ne peux pas montrer d'extrait du film de Henri-Georges Clouzot, mais c'est fondamental.
Ah,
ça,
complètement.
Quand même.
C'est un film absolument magnifique. Je pense que c'est
peut-être le plus beau film sur l'histoire de l'art.
C'est un très beau film. Je dirais que c'est, voilà, il y a vraiment deux. Alors il y a un film qui est très connu, c'est le film de Clouzot, un film qui est moins connu mais qui est maintenant diffusé. C'est un film qui avait eu d'ailleurs le Lion d'argent à la Mostra de Venise il y a des années. C'est le film de Nelly Kaplan sur Picasso. Et j'ai la chance d'être un ami de Nelly Kaplan et elle m'a raconté d'ailleurs que ce film a été présenté aussi à Cannes, mais à côté du Festival de Cannes. Et ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'alors qu'elle présentait son film, arrivent Picasso et Jacqueline. Et, voilà. Et là, elle me dit, je me suis liquéfié en me disant, mais qu'est-ce qu'il va dire? Puisqu'il avait toujours refusé, par exemple, pour Venise, il avait refusé de venir.
Et Nelly toujours en sandales et en polo marin.
Ah, voilà. Et il arrive, et alors va naître une très belle amitié entre eux, parce que Picasso a beaucoup aimé également le film de Nelly Kaplan, qui est un beaucoup plus petit film en durée par rapport au grand film de Clouzot. Mais c'est aussi une œuvre que l'on peut voir maintenant en DVD, qui est tout à fait passionnante.
Il est évident que Picasso avait un œil au sens figuré, au sens propre aussi. Hein.
Il y a ces photos incroyables.
Ah mais c'est un modèle pour tous les photographes. D'ailleurs, par hasard, Picasso a aussi, en dehors des écrivains, des poètes, Brassailles est un des grands amis de Picasso. Et Brassailles est très 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 marqué par cet œil extraordinaire.
Au détour d'une phrase tout à l'heure, vous avez évoqué une certaine Jacqueline. Donc ça, c'est la dernière compagne.
C'est la dernière épouse, absolument. La Jacqueline Rock. Alors, qui est une très jolie figure, qui est en même temps, alors, quelqu'un qui deviendra un peu la gardienne du tombeau, puisqu'elle sera la veuve de Picasso. Alors, on lui a beaucoup reproché d'avoir un peu phagocyté Picasso à la fin de sa vie. C'est vrai que Jacqueline a parfois coupé un peu Picasso des autres enfants qui avaient pu compter dans la vie de Picasso. Mais en même temps, elle veut le protéger. Jacqueline, c'est vraiment quelqu'un qui est complètement, complètement fasciné par son grand homme.
Disons-le, dans le courant des années 1960, la figure de Picasso devient quand même l'objet d'une polémique, alors qu'il n'est plus une polémique esthétique, là, on parle plus de son art et de ses tableaux, tout ça est entré dans les mœurs, si je puis dire, mais qui est une polémique sur l'argent, parce qu'évidemment, il est le premier artiste vivant à vendre à des prix aussi fous.
Et puis tout devient, ça devient même presque scandaleux. D'ailleurs, Picasso s'en amuse, et c'est une des choses, alors on a toujours les fameuses petites anecdotes, mais qui sont très drôles, où on raconte que Picasso, qui adore griffonner, évidemment, dans un restaurant, se met à faire des croquis sur une nappe en papier. Et évidemment, le propriétaire du restaurant dit, mais Picasso, monsieur Picasso, est-ce que vous accepteriez de le signer? Et il dit, ah non, là, ça donnerait beaucoup trop de valeur à l'œuvre. Le dessin, c'est déjà beaucoup. Mais si en plus c'est signé, ça devient absolument.
Ce qu'il dit, c'est, je vous ai dit que je payais l'addition, pas que j'achetais le restaurant.
Voilà, que j'achetais le restaurant. on a une foule. Alors évidemment, beaucoup sont aussi des choses qu'on a exagérées. Mais ça montre ce qu'est devenu Picasso. Picasso est devenu un dieu vivant. Comme, objectivement, aucun artiste ne l'avait été. C'est devenu le maître.
Le premier à vivre ça dans l'histoire de l'art.
Complètement.
Et donc, ça doit être quand même un peu perturbant, même pour lui, non?
Oui, et en même temps, il en joue. C'est vrai que par moments, Picasso a aussi envie de se venger des années de vache maigre qu'il a pu connaître et de se dire, au fond, tant que tous ces crétins m'idolâtrent, jouons aussi avec eux. Il y a un moment où personne ne croyait en moi. Maintenant, je fais n'importe quoi, tout le monde m'adore. Et il joue. Là, par contre, où il ne joue pas, c'est dans sa peinture, puisqu'il continue son évolution jusqu'au dernier tableau.
Il y a un autre maître espagnol, pas forcément toujours ami de Picasso, mais qui va lui aussi beaucoup abuser sur la fin de sa vie de sa signature, c'est le célèbre Salvador Dali. Alors, si je fais cette légère incursion dans l'autre univers, celui de Dali, Serge, c'est pour évoquer un spectacle dont Europe 1 est partenaire qui s'appelle La Verita. Ça se joue jusqu'au 5 juillet prochain au Folies Bergères et c'est un extraordinaire spectacle de cirque artistique. Vous savez, un spectacle de théâtre acrobatique autour de l'univers de Salvador Dali, justement. Un spectacle écrit et mis en scène par Daniele Finzi Pasca, avec 13 artistes qui ont été rassemblés autour d'un tulle de Salvador Dali, si je puis dire. C'est un moment de grâce et c'est une évocation aussi de cet univers artistique espagnol contemporain.
Il y avait une rivalité Dali-Picasso là.
Terrible. Il meurt, Picasso, en 73, donc en avril 73. Et alors après, ce sera toute l'histoire de la succession. Ça nous entraînerait vraiment dans une longue histoire.
Une autre histoire.
comme on dit, à une autre heure et sur cette même enseigne.
Avec
Merci
plaisir.
Beaucoup Serge Lega.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et c'est Nicolas qui vous interroge cet après-midi, Franck Ferrand, via le site internet d'Europe 1, europe1.fr. Voici son message. Je vous écris pour une question 3 en réalité. Depuis quand existe-t-il des ambassades? Quel est le statut de ces territoires? Et quelle est la différence avec un consulat?
Alors, il y a toujours eu des ambassadeurs, vous savez, tous les princes ont eu des envoyés. Mais en France, si on veut essayer de circonscrire la question, en France, les ambassadeurs permanents, c'est ça qui fait la différence. C'est-à-dire que là, je ne parle plus d'émissaires, d'envoyés spéciaux, de ministres envoyés. Je parle des ambassades permanentes. Ça, ça date du XVIe siècle. C'est, on voit l'apparition de la forme moderne des ambassadeurs, hein, sous le règne de François Ier, nous dit Fleury Vindry, dans les années 1520 à 1530. C'est-à-dire que là, on a des envoyés qui viennent s'installer, qui montent leur ambassade et qui sont à demeure auprès du souverain étranger. Alors, on parlait d'ambassade pour les souverains, justement. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale environ, on ne parle pas d'ambassade pour les républiques. Il faut savoir qu'on parlait de légation. Aujourd'hui, on ne fait plus cette distinction, bien entendu. Et d'ailleurs, les légations, elles existent encore, mais ce sont des représentations diplomatiques à vocation plus restreinte. Alors, quel est le statut des ambassades? Ben, c'est un statut qui a été fixé clairement par les dernières conventions de Vienne sur les relations diplomatiques, avril 1961, qui établit l'immunité du personnel diplomatique. Ça, c'est tout à fait essentiel. Vous imaginez, heureusement que quand vous travaillez dans une ambassade, vous ne pouvez pas être attrapé, si je puis dire, par le pays dans lequel vous vivez. Et puis, il y a l'inviolabilité des ambassades. Et ça, forcément, ça va bientôt faire des ambassades des lieux de refuge, avec tous les problèmes que ça peut poser. Mais ça nous entraînerait peut-être un petit peu loin. Les ambassades, qui sont des lieux clos en extraterritorialité, c'est-à-dire quand vous êtes aujourd'hui à l'ambassade d'Angleterre, vous êtes sur le territoire britannique. Ça fait qu'évidemment, ça en fait des lieux d'asile. J'allais dire d'exil, en tout cas l'antichambre de l'exil. Alors, quelle différence nous demande notre auditeur entre ambassade et consulat? Ça, c'est une question de représentation. L'ambassade représente le pays diplomatiquement, alors que le consulat ne le représente de manière beaucoup plus modeste qu'administrativement. Donc le consulat sert tout simplement, disons les choses, à gérer les petits problèmes et à faire des papiers, hein, des passeports, d'histoire d'actes de naissance, de mariage, etc. L'ambassade, elle, conserve le statut très privilégié d'une représentation diplomatique. Elle est en quelque sorte un petit morceau du pays dans le pays invitant.